Voilà, amis auditeurs de Radio Maria France, tout sur la vocation. On retrouve tout de suite le père Jean-Marie Parrain. Père Jean-Marie
bonjour
Parrain,
à chacun
bonjour.
Et à chacune pour cette nouvelle émission, surtout sur la vocation, où nous sommes invités à contempler l'amour de Dieu qui appelle des hommes et des femmes dans des vocations différentes, que ce soit le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce. Et aujourd'hui, par rapport à ce que nous entendons dans l'Écriture, dans l'Évangile de ce jour, il est bon peut-être de méditer l'amour de Dieu en tant qu'il est l'époux. Et commençons peut-être par nous confier à l'Esprit-Saint pour pouvoir recevoir la parole de l'Évangile du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allumons-nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit au Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Saint-Esprit, nous te demandons d'éclairer notre intelligence, de fortifier notre volonté, pour répondre à l'appel que Dieu veut dans les vocations qu'il a préparées, dans la vocation qu'il a préparée pour nous. Frères et sœurs, entendons l'évangile d'aujourd'hui. En Matthieu chapitre 9, versets 14-15. En ce temps-là, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus. En disant, pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Dans cet évangile, il nous est donné d'avoir une articulation entre la notion de jeûne et la notion d'époux, d'épousailles, de noces, les invités de la noce, l'époux qui est avec eux ou l'époux qui n'est pas avec nous. Et à ce moment-là, nous jeûnons. Il y a comme une incompréhension entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples du Christ sur la manière dont ils comprennent chacun de manière différente la notion de jeûne. Derrière la question de jeûne, il y a la question d'aptitude, de purification. Et derrière la question de l'époux dans la dimension vocationnelle, il y a cette question de discerner qui est l'époux en vue de discerner sa vocation. Discerner sa vocation, c'est discerner avec qui je vais à qui je vais donner ma vie. Est-ce un homme ou une femme ou est-ce à Dieu directement? Quelle sera pour moi les épousailles? Alors tout d'abord, peut-être bien comprendre la notion de jeûne. Dans l'Ancien Testament, la notion de jeûne correspond à une partie à la notion de purification. Ainsi, une personne qui avait fait quelque chose d'impur ou touché quelque chose d'impur devait avoir un temps de purification à travers du jeûne, mais pas que, une mise à part, etc., etc. Ainsi, on ne pouvait pas toucher un lépreux, sinon on était pur, il y avait des rites de purification, et ces rites de purification devaient nous permettre d'être à nouveau purs en vue de rendre un culte. Donc d'une certaine manière, le jeûne participe au rite de purification ou des fois de contrition et a pour but une certaine capacité dans l'Ancien Testament pour être capable de rendre un culte à Dieu, etc., etc. Tandis que dans le Nouveau Testament, avec le Christ, le jeûne tout en restant va avoir une nouvelle dimension. Tout d'abord, la première dimension, c'est que Jésus est dorénavant parmi les disciples, alors que les disciples de Saint Jean attendaient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jésus est cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire il est l'époux des âmes et il est l'époux de l'Église. Il est donc l'époux des consacrés, et l'époux de ceux qui discernent leur vocation. Automatiquement, le jeûne prend une autre dimension. Le jeûne n'est plus simplement, comme dans l'Ancien Testament, être rendu capable de rendre un culte et être purifié pour. Le jeûne consiste à être uni à l'époux dorénavant. C'est-à-dire, je jeûnerai quand l'époux n'est pas là. Si l'époux est là, le but ce n'est pas le jeûne pour le jeûne, la purification pour la purification, le but c'est l'union. Et discerner sa vocation, c'est comment je vais m'unir à Dieu. Au ciel, on est tous consacrés, on est tous unis à l'époux. Mais ici-bas, il y a différentes vocations qui nous mènent vers le Christ. Et le jeûne que nous faisons pendant le carême, c'est justement, des fois, nous sentons que nous ne sommes pas assez unis à l'époux, et ainsi, d'une certaine manière, nous nous purifions, nous jeûnons, c'est-à-dire nous faisons croître en nous cette vertu d'espérance qui est de désirer le ciel, de désirer l'époux. Nous nous séparons des choses de la terre, nous jeûnons, pour avoir une plus grande faim des choses de Dieu, du ciel, c'est-à-dire avoir faim ultimement de l'époux. C'est pour cela que le Christ propose que quand l'époux n'est pas là, c'est-à-dire quand finalement, alors qu'il est toujours là, puisqu'il est l'Emmanuel, l'époux avec nous, mais quand l'époux n'est pas là, c'est-à-dire quand nous ne sentons pas encore cette union assez fortement, on peut jeûner en vue de nous unir plus fortement avec le Seigneur. Et donc voilà, finalement, ce jeûne, dans le discernement vocationnel, sera les étapes de purification, sera cette ascèse, cette renonciation à soi-même pour choisir la volonté de Dieu, un jeûne d'une certaine manière de sa volonté propre pour choisir ce que Dieu veut. Creusons maintenant cette notion d'époux. Tout d'abord, parlons au niveau de l'être humain, et puis après, parlons au niveau de Dieu. Au niveau de l'être humain, nous sommes faits pour les épousailles. Un être humain est fait à la fois pour être fils, frère, époux et père, ou alors fille, sœur, épouse et mère. Et le discernement vocationnel se situe au niveau des épousailles, à qui tu donnes ta vie. Et le Christ, lui, est l'époux. Il est l'époux depuis qu'il est incarné, on en avait parlé la dernière fois. Il est l'époux à Cana qui se révèle. C'est lui vraiment le vrai marié, et Cana est le reflet. Les noces de Cana sont le reflet des noces dans l'Eucharistie, où le prêtre dira « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Il est encore celui, en Jean chapitre 3, où Jean-Baptiste dit qu'il est l'époux de l'Église. Quant à l'ami de l'époux, il entend sa voix, il est là, il est tout joyeux. Et Jean-Baptiste de dire « Lui, il faut qu'il grandisse, c'est que moi je diminue ». D'une certaine manière, dans cet évangile, les disciples de saint Jean ont besoin d'entendre l'époux et de passer d'un jeûne de purification à un jeûne qui conduit à l'union avec l'époux. Et puis à la fin de l'Apocalypse, on entend la voix de l'Esprit-Saint unie à l'Église dire « Amen, viens Seigneur Jésus ». L'Esprit et l'Épouse disent « Amen, viens Seigneur Jésus ». Parce que Jésus est l'époux. Et donc discerner sa vocation, c'est savoir si on va se marier ici-bas, dans des épousailles terrestres qui vont nous conduire petit à petit dans un chemin de conversion vers le ciel, et puis un jour au ciel on n'est pas marié, on est consacré, donc on épouse le Christ, ou alors si on est directement choisi par l'époux pour être consacré ou prêtre. Si on est choisi par l'époux pour être consacré, on l'épouse, et si on est choisi à être prêtre, on l'épouse aussi, mais en même temps, en l'époux, on devient époux de l'Église. Et donc, permettez-moi de méditer un petit peu ces trois aspects de la sponsalité qui est le discernement vocationnel. Comment on se prépare à être époux et qu'est-ce que c'est que les épousailles? Dans le mariage, les épousailles, ça consiste à continuer la création. Adam et Ève continuent la création, ainsi le Seigneur demande à Adam et Ève « Soyez féconds, multipliez-vous ». Il y a une participation à l'œuvre du Créateur, on continue l'œuvre de la création. Dans la génération, dans la culture de la terre, dans la culture, on pourrait dire aussi de la culture, que ça soit sociale, éducative, politique, etc., la société. Et d'une certaine manière, ce moteur de cette culture, de cet engendrement, c'est les épousailles entre un homme et une femme. Et les épousailles, cet échange d'alliance entre un homme et une femme, ont comme modèle le Christ qui a fait alliance entre Israël, entre son Église et lui, particulièrement dans son sang. C'est pour ça que le Christ est le modèle des époux et que quand les époux humains s'échangent leur alliance dans le sacrement de mariage pour les chrétiens, ils sont un signe de la fidélité du Christ époux à son Église. Vous avez cette catéchèse en Éphésiens 5. Et puis vous avez ceux qui sont appelés à la vie consacrée, qui sont d'une manière particulièrement privilégiée, disent ici-bas, ils anticipent le royaume où au ciel on est tous des consacrés. Et c'est la voie de l'époux à la croix qui en a choisi particulièrement certains. Et donc à ce moment-là, on est appelé à véritablement tout donner à l'époux dès ici-bas et de vivre avec lui une spontanéité surnaturelle. C'est vrai pour les femmes qui sont épouses du Christ, mais c'est vrai aussi pour les hommes, et on le dit moins, sachant que le docteur des épousailles mystiques, c'est Saint Jean de la Croix, et on pourrait parler de l'époux avec la sagesse éternelle, l'époux avec le Verbe divin, etc., etc. Je vous renvoie à, par exemple, ce fameux cistercien dont Marmion, qui écrivit un jour les sponsa verbi, c'est-à-dire les époux du Verbe, l'épouse du Verbe. Et ça renvoie au Cantique des Cantiques, ce rapport amoureux qu'a Dieu avec Israël, mais qu'a Dieu aussi avec toute âme, et qu'a Dieu avec les âmes consacrées, qu'elles soient hommes ou femmes. Ainsi, un des commentateurs du Cantique des Cantiques, c'est Saint Bernard. Voilà comment l'époux se déploie dans la vie consacrée. Mais voilà encore aussi comment se déploie l'époux dans la vie sacerdotale, puisque le prêtre est un consacré, il est donc comme les consacrés hommes ou femmes consacrés à Dieu, il est époux de Dieu, mais dans le Christ, l'unique époux, il devient aussi époux de l'Église. Et on voit que finalement préparer, si on relit l'évangile qui nous est donné aujourd'hui, de se préparer aux noces, et de jeûner en vue d'accueillir l'époux, d'être attaché à lui, ben quel que soit son cheminement vers le mariage, vers la vie consacrée ou vers le sacerdoce, pour grandir dans l'intimité avec l'époux, il faut pour cela jeûner, c'est-à-dire garder son cœur, se séparer des choses de la terre pour choisir les choses du ciel. Et aujourd'hui, comme nous sommes vendredi, nous pouvons méditer le Seigneur à la croix. Cet époux à la croix qui scelle l'alliance entre l'homme et la femme dans le sacrement, cet époux à la croix qui dit « j'ai soif » pour certaines âmes consacrées, qui dit encore en révélant son cœur « venez à moi ». Cet époux à la croix qui va choisir Saint Jean comme prêtre, et tous les prêtres qui vont être configurés dans l'époux à la croix, c'est ainsi le rite d'ordination, on dit « soyez conformés à la croix du Seigneur ». Cet époux encore qui dit dans l'Eucharistie « ceci est mon corps livré pour vous ». Ainsi, la communion, particulièrement pour les consacrés et pour les prêtres, devient le lieu du mariage avec Dieu. C'est le lieu du mariage qui anticipe le mariage avec toutes les âmes au ciel, le festin des noces de l'agneau. Donc je vous invite, chers auditeurs, à regarder la croix du Seigneur aujourd'hui en ce vendredi. C'est pour cela que le verset qui remplace l'Alléluia, comme nous sommes en carême, qui introduit le verset qui introduit l'évangile, il est dit « Sagesse éternelle du Dieu vivant ». Cette sagesse éternelle du Dieu vivant se réalise pleinement dans la sagesse de la croix. Et que voyons-nous dans la sagesse de la croix? Nous voyons, comme le dit saint Paul, « Jésus qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi » en Galates 2.20. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et je vous invite, vous qui voulez discerner votre vocation, ou vous qui voulez porter les vocations, c'est-à-dire comme la Vierge Marie au pied de la croix en engendrée pour l'Église, et bien de contempler l'époux à la croix, l'époux qui appelle les âmes à se donner à lui. « Venez à moi, j'ai soif ». Et nous pouvons entendre à ce moment-là le Seigneur qui dit, comme à Marguerite Marie qui ouvre son cœur grand ouvert à la croix, « J'ai soif, d'une soif si ardente d'être aimé des hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Cela est vrai pour chacune des vocations. Le sacrement du mariage a été instauré par le Christ à la croix. Il n'y a pas de sacrement pour la vie consacrée, mais l'appel à se donner entièrement à la vie consacrée a été entendu de manière particulière par certaines âmes à la croix. Ainsi, il en va pour Mère Teresa, qui entendit le Christ dire « j'ai soif » et qui décida que dans tous les lieux où habiteraient les missionnaires de la charité, ces sœurs qui allaient voir les lépreux à Calcutta, il y aurait au-dessus du Saint-Sacrement exposé, le Christ vraiment présent, il y aurait cette phrase « I thirst », « j'ai soif ». Et c'est encore cette même parole du Christ « j'ai soif » qui retentit dans les âmes missionnaires et des prêtres qui veulent donner au monde des âmes sanctifiées en donnant les sacrements. Voyez, le Seigneur engendre à la croix les vocations. Et faire retentir cette voix de l'époux, c'est faire retentir cette voix du Christ à la croix « j'ai soif » qui dit encore « venez à moi ». Et donc nous avons à contempler l'époux. L'époux qui est là et qui désire des âmes. Et pour mieux le contempler, regardons la croix en ce vendredi. Regardons son désir ardent, son désir fort, son désir brûlant. Ainsi, il est dit dans la sagesse de la croix avec le Père de Montfort que le Seigneur brûle sur la croix, un peu comme il brûlait dans l'Exode. C'est-à-dire un peu comme ce buisson ardent qui brûlait, le Seigneur brûle sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que son amour est immense et la croix est comme un bois que l'amour du Seigneur enflamme. Saint Thomas d'Aquin, qui médite le Christ en croix, ne dit pas finalement que le Seigneur est mort simplement par ses blessures, mais il est mort d'holocauste, par amour. C'est-à-dire qu'il brûlait tellement du feu de l'amour qu'il en est mort par amour. Et le Christ sur la croix veut engendrer les vocations, l'époux donne sa vie. Venez à moi, j'ai soif. Et il meurt par amour pour toute âme, spécialement pour ces âmes qui sont appelées à se consacrer complètement à lui, qui entendent ce « j'ai soif », que ce soit dans la vie consacrée ou sacerdotale. Mais il y a aussi des âmes déjà mariées ou déjà qui ont trouvé leur vocation consacrée ou sacerdotale, qui peuvent entendre au pied de la croix ce « j'ai soif », non plus simplement pour eux, mais pour participer, comme Saint Joseph ou comme la Vierge Marie, à participer à l'engendrement de d'autres vocations. Je pense particulièrement à cette belle figure qui a été béatifiée par le pape François il y a quelque temps, qui est la bienheureuse Conchita, mexicaine du XXe siècle, qui était mariée, mais qui a contemplé la croix du Seigneur et qui a senti l'appel à être mère spirituelle pour être pour des âmes sacerdotales et consacrées. Et donc, d'une certaine manière, elle a entendu ce « j'ai soif », cette voix de l'époux à la croix qui demande à des âmes d'offrir leur vie pour en engendrer d'autres, un peu à la manière de la Vierge Marie, mère des prêtres et mère des consacrés. Et si nous entendons cela, forcément, nous voudrons que l'époux soit connu. Nous voudrons à ce moment-là aider à faire connaître la voix de l'époux, à le proclamer. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, nous jeûnerons pour engendrer, pour donner vie, pour mieux proclamer, pour mieux faire connaître. Et donc le jeûne, c'est véritablement que le Seigneur puisse toucher des âmes. Donc je vous remercie pour tous ceux qui offraient des petits sacrifices, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Je pense encore à la petite Thérèse qui a été mère spirituelle de prêtre, qui dira que ce sont ses premiers-nés. Elle parlait de la conversion de Pranzini, mais aussi d'une certaine manière on peut parler de ses frères spirituels qu'elle a accompagnés, ses premiers frères spirituels prêtres, qui finalement au fur et à mesure des correspondances spirituelles sont plus venus ses fils que ses frères. Et bien la petite Thérèse offrait leur vie pour elle, pour eux. Et bien nous pouvons faire pareil. Offrir au Seigneur l'engendrement spirituel commence par une conversion de celui qui veut y participer, par d'une certaine manière une offrande de lui-même, une oblation dans le Christ époux, une offrande de lui-même. C'est un peu comme si nous offrons notre vie sur la patène dans l'Eucharistie. Le Seigneur dit « Ceci est mon corps livré pour vous », c'est ce qu'il dit dans l'Eucharistie, c'est la même parole qu'il dit à la croix, puisque l'Eucharistie anticipe le mystère de la croix. Et d'une certaine manière, nous pouvons y participer pour participer avec Jésus à l'engendrement des vocations. Et nous pouvons accélérer, intensifier cette offrande de nous-mêmes par le jeûne. Ce jeûne qui nous unit mieux à l'époux, qui appelle, qui engendre, mais ce jeûne aussi qui peut aider les âmes à mieux entendre. Ton jeûne peut préparer les cœurs, comme, j'allais dire, l'ascèse de Jean-Baptiste a permis de faire entendre la voix de l'époux. N'était-il pas Jean-Baptiste celui qui prêchait dans le désert et qui était là pour préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire préparer le chemin du Christ époux dans les cœurs, le chemin du Christ époux qui veut se fiancer les âmes? Pourquoi alors, nous les pharisiens, nous jeûnons? Les disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Nous pouvons entendre aussi dans ces paroles, parce qu'elles sont riches de sens, le besoin qu'a l'Église aujourd'hui particulièrement d'avoir des prêtres. Et nous savons que dans la liturgie se réalise quelque chose de très fort du mystère du prêtre comme époux de l'Église. Quand le prêtre traverse l'assemblée, c'est un peu comme si Jésus époux passait à travers les siens, lui l'époux de l'Église qui a donné sa vie pour chaque âme. Et nous, on peut sentir parfois que l'époux est enlevé aux âmes, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où il n'y a pas d'époux, il n'y a pas le prêtre présent sacramentalement qui rend présent l'époux de l'Église, qui est le Christ. Et cela peut être douloureux. C'est pour ça peut-être que certaines âmes peuvent sentir d'offrir leur carême pour qu'il y ait un engendrement des prêtres. Et enfin, je voudrais terminer par cette prise de conscience s'il y a des prêtres en ce moment qui écoutent Radio Maria. Voilà. Si vous nous écoutez, je voudrais, frère, dans le sacerdoce, vous inviter à mesurer la grâce que vous avez reçue. On ne la mesure jamais, mais la grâce que nous avons reçue, nous prêtres, dans le sacrement d'ordination. Le sacrement d'ordination sacerdotale nous configure au Christ grand prêtre qui est l'époux de l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous pouvons, dans notre vie, engendrer des vocations comme le Christ, l'époux de l'Église, a engendré des vocations dans notre offrande quotidienne, mais aussi nous pouvons proclamer la voix de l'époux. Nous pouvons le faire en chair. Alors ce n'est pas du Wi-Fi direct, mais toujours est-il, c'est vrai. Combien d'âmes ont reçu leur appel parce qu'un prêtre prêchait? Combien d'âmes ont reçu leur appel parce qu'un prêtre les a invités à répondre à l'appel du Christ? Comment, d'où vient ce pouvoir un peu surnaturel du prêtre à faire cela? Il vient simplement qu'il est configuré au Christ époux, et d'une certaine manière, il est encore plus que Saint Jean-Baptiste, il est porte-parole de la voix de l'époux. Et je voudrais terminer aujourd'hui en vous donnant un exemple de quelqu'un qui a été extraordinairement la voix de l'époux, qui a su faire connaître cet époux aux âmes. Quand je visitais récemment des monastères, que ce soit bénédictins ou d'autres, on m'a parlé de ce prêtre qui avait amené des jeunes hommes ou des jeunes femmes à devenir religieux, ou qui avait même été un stimulant dans le cheminement de certains au sacerdoce. Et ce prêtre est décédé. Il n'a pas vécu 40 ans. Il est né en 1956 et il est mort en 1991. Il fut prêtre du diocèse de Versailles. Il s'appelle Jean-Paul Hiverna. C'est l'abbé Jean-Paul Hiverna. Il est mort le 28 août 1991. Et juste avant, en rentrant d'un pèlerinage à Chestorova, en 1991, un jour avant sa mort, le 27 août, il écrivait cette parole. Vivre 20 ans, 50 ans ou 100 ans, ce n'est pas l'essentiel. C'est vivre pleinement l'instant présent où Dieu est blotti. Et il ajoutait, tout est beau. Cet homme fut véritablement, par sa radicalité, par son témoignage, un missionnaire de la vocation, un porte-parole de la voix de l'époux. Ainsi, beaucoup d'hommes et de femmes ont été conduits par ce porte-parole de la voix de l'époux vers le Christ époux, époux des consacrés, époux des prêtres, et qui finalement, en le Christ, on devient époux de l'Église, et ce fut un véritable témoin de la vocation. Et vous, chers frères prêtres, je vous invite à mesurer le cadeau qui vous est fait d'être porte-parole de la voix de l'époux, de sentir combien le Seigneur Jésus à la croix, lui l'époux de l'Église et des âmes, lui l'époux des consacrés, lui qui veut configurer les prêtres, dit « J'ai soif ». J'ai soif que tu participes à ma mission vocationnelle. J'ai soif d'engendrer par toi des vocations. Et d'entendre aussi, et de faire entendre dans vos homélies, dans vos prédications, à beaucoup d'autres âmes, l'appel du Seigneur Jésus à la vie consacrée et au discernement vocationnel, au discernement des épousailles. Confions-nous peut-être, pour finir, dans cette prière que m'ont rapportée de jeunes femmes qui elles-mêmes discernent leur vocation à la vie consacrée, qui ont écrit cette très belle prière au cœur du Christ. Prions-la ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Père, c'est dans la confiance et l'abandon que nous venons te supplier. C'est qu'autour des autels eucharistiques se lèvent des âmes généreuses qui sachent répondre à ton appel en devenant prêtres, consacrés, religieux et religieuses. Ô Jésus, pasteur de nos âmes, ton cœur brûle du désir de te donner à travers des âmes consacrées et sacerdotales. Permets que les jeunes soient transformés dans ton amour, qu'ils puissent discerner dans la paix et la liberté le chemin de bonheur que tu veux pour eux. Ô Esprit Saint, suscite au sein du peuple de Dieu des saintes familles, disponibles à l'accueil des vocations en leur sein, qu'elles aient le désir ardent d'éduquer et de fortifier celles et ceux qui acceptent de se mettre à ta suite. Envoie ton esprit de discernement et de force pour que ton Église se renouvelle et trouve les moyens d'éveiller et d'accompagner les vocations. Transforme-nous avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus, pour la gloire du Père et le salut du monde. Ô Marie, aide-nous à contempler auprès de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église, cœur du Christ grand prêtre, cœur de l'époux. Nous avons confiance en toi. Merci à chacun.
Merci beaucoup, Père. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir, Père.